Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, les illusions perdues du 1er mai. Bonjour Daniel Tartakovsky.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez publié en 2013 aux presses de Sciences Po avec Olivier Filleul La Manifestation. Et puis en 2005, c'était aux éditions Hachette, La Part du Rêve, Histoire du 1er mai en France. Est-ce donc à cela que va ressembler désormais le 1er mai ? Une journée dont on mesure avant tout, non pas le niveau de participation, mais le niveau de violence, bien loin en tout cas de ce que ce jour férié, institué comme tel en 1947, avait fini par devenir un rassemblement festif et familial. Le 1er mai 2018 avait été marqué par l'irruption des Black Blocs en tête du cortège, puis à rebours par ce qui allait devenir l'affaire Benalla. Du 1er mai 2019, en tout cas du 1er mai à Paris, on retiendra pour l'instant les affrontements avec les forces de l'ordre, l'exfiltration temporaire du cortège du leader de la CGT et la polémique autour des raisons de l'intrusion des manifestants dans l'enceinte de l'hôpital de la Salpêtrière. La journée internationale des travailleurs, et non pas la fête du travail à la connotation très vichysoise, ne fut pourtant pas toujours dans le passé, un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs dans la douleur et la violence que cette journée voit le jour, à la fin du 19e siècle. Le mouvement ouvrier revendique alors la journée de 8 heures. La mort de manifestants va contribuer à fixer cette date comme le rendez-vous annuel et mondial du mouvement social. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? À quoi sert encore cette journée ? Les illusions perdues du 1er mai, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Daniel Tartakovsky. Alors en tant qu'historienne, vous travaillez sur des archives, mais l'historien se nourrit aussi de ses propres expériences. Moi j'aimerais savoir, ce sera ma première question, Daniel Tartakovsky, s'il y a un 1er mai qui vous a particulièrement marqué ?
Mais je renverserai la question. Je pense que le 1er mai s'inscrit toujours dans une conjoncture et reflète toujours à divers titres cette conjoncture, ce que vous évoquiez il y a un instant sur la violence. Mais je dirais que par-delà les conjonctures, qui font que certains 1er mai sont plus faciles à, non pas à vivre, mais à défiler que d'autres, hein, quand on manifeste le 1er mai, c'est pas tout à fait comme si on manifestait deux jours avant, deux jours après, pour autre chose. Parce que ce 1er mai, il a une histoire, et explicitement ou non, ceux qui manifestent ce jour-là s'inscrivent dans cette histoire.
Alors cette histoire, elle s'écrit évidemment chaque année. La dernière fois, c'était mercredi dernier, un défilé qui s'annonçait sous haute tension du fait de la présence des Gilets jaunes, des Black Blocs et de l'important dispositif policier. Et un des moments marquants aura été l'exfiltration temporaire du leader de la CGT, Philippe Martinez.
Les cortèges sont partis à Paris, des syndicats, des gilets jaunes. La police veille au grain. Ce 1er mai 2019, elle est déployée partout dans la capitale. Les autorités craignent des débordements.
C'est vrai que ça a pas mal chauffé, notamment au début de la manifestation. Philippe Martinez, qui espérait que cette journée pourrait être un moment de convergence entre les gilets jaunes et ceux qui suivent sa bannière syndicale de la CGT. La tension était telle qu'il a préféré quitter le cortège avec un dispositif policier extrêmement important.
Ça vous a mis en colère ?
Oui, parce que... et c'est pas les policiers qui sont en cause, c'est les ordres qui leur sont donnés. On a été isolés et les policiers sont venus à... proche de nos moustaches, si je puis dire, et ils ont tiré des gaz lacrymogènes en direction d'une camionnette.
Alors Daniel Tartakovsky, voir le leader de la CGT devoir quitter provisoirement le cortège, pas seulement à cause de la police, hein, parce qu'il a été aussi hué par certains manifestants, voir un syndicat comme la FSU décider de quitter prématurément là aussi le défilé pour des raisons de sécurité, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît anecdotique ou bien est-ce que c'est un événement important ?
Bah écoutez, je regrette un peu qu'on réduise le 1er mai à ces deux épisodes qui ne sont pas tout à fait anecdotiques. J'étais en tête du cortège, c'était assez difficile d'échapper au gaz lacrymogène et au début de la manif, où en général tout se passe à peu près bien, et à la fin. Même quand on a l'habitude de prendre des chemins de traverse, le cortège était construit pour des raisons de stratégie de maintien de l'ordre, comme une nasse. Et même quand on vous laisse pousser un petit peu, eh bien, il fallait remonter très, très, très loin en amont pour échapper au gaz lacrymogène. Donc, c'est pas tout à fait anecdotique. Je sais que je regrette un petit peu. J'étais à côté du ballon de la FSU à la formation du cortège. Ne disons pas la FSU, il y avait un camion de la FSU pour des raisons qui tiennent aux vacances scolaires. Il y avait assez peu d'enseignants, pour ne pas dire moins, autour du camion de la FSU. Ce camion s'est trouvé pris dans un mouvement vibrionnaire parce que, pour échapper au gaz lacrymogène, les manifestations sont revenues en arrière. Et c'est vrai que c'était un petit peu dangereux puisque on ne savait plus dans quel sens les uns et les autres allaient. Et donc, le camion a choisi de se pousser avant de se trouver dans un mouvement qu'il ne maîtrisait plus.
Bon. Donc, il ne faut pas en faire quelque chose de particulièrement significatif.
Moi, ce que je retiens, et je regrette un petit peu qu'on glisse de phénomènes qui sont significatifs au sens où ils nous disent quelque chose sur les stratégies du maintien de l'ordre du nouveau préfet et du ministre de l'Intérieur. Mais je regrette un peu qu'on bascule de ce constat réel à des syndicats dépassés, comme je l'ai lu dans de nombreux médias, y compris par les Gilets jaunes et par les Black Blocs. Que ce premier mai ne ressemble pas à d'autres premiers mai est une chose. Je ne vois pas ce qui permet d'en induire un dépassement par des organisations. Ce que je constate, on parlait tout à l'heure des premiers mai qui s'inscrivent dans une conjoncture précise et puis par ailleurs qui relève de la longue durée. C'est que samedi dernier, 24e acte, si je ne me trompe, un certain nombre de syndicats de la CGT, la France Insoumise, mais également sur des appels spécifiques, le Parti communiste, le NPA et de nombreuses associations, avaient appelé à manifester à l'acte 24. Que je sache, ça ne s'est pas traduit par une augmentation très significative et très visible de la manifestation parisienne, qui, et c'est tout à fait normal, auprès de 24 semaines, était de très faible importance. 4 jours plus tard, les Gilets jaunes, pour la première fois, sortent du cadre temporel qui est le leur, appellent à manifester le 1er mai, et il y a beaucoup de Gilets jaunes, il y a beaucoup de militants syndicalistes, il y a beaucoup de gens ordinaires, et tout ça défile dans une très grande confusion, eut égard à la politique du maintien de l'ordre.
Donc quand le journal Le Monde, Daniel Tartakovsky, conclut son compte-rendu de cette journée en disant à propos des syndicats qu'ils sont les grands brûlés symboliques de ce 1er mai, vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Je ne suis pas d'accord.
Parce que les syndicats ne vont pas très bien non plus.
Non, voilà. S'il s'agit de dire que les syndicats ne vont pas très bien, nous le savons tous, mais j'aurais tendance à dire que c'est un sujet plus large et que précisément dans une conjoncture où les syndicats ne vont pas très bien, pour des raisons qui seraient un peu longues d'expliquer dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, mais sur lequel on pourrait revenir, une journée telle que le 1er mai, parce que, qu'on le sache ou non, elle véhicule cette histoire, est néanmoins susceptible de rassembler.
Est-ce qu'une journée comme le 1er mai permet justement de mesurer soit la force des syndicats, soit l'état de leur division, puisqu'on a coutume d'évoquer justement le fait que les défilés se font de manière dispersée, la CFDT par exemple ne défilant jamais ou presque jamais avec la CGT. Est-ce que, en tout cas, c'est un instrument de mesure, ce 1er mai ?
Bien sûr que c'est un instrument de mesure, mais à condition de comparer des choses qui sont comparables, de se rappeler effectivement qu'à l'échelle des 1er mai, pour des raisons qui tiennent à leurs histoires différentes, la CGT et la CFTC, puis la CFDT, n'ont pas le même rapport au 1er mai, qui appartient à une histoire antérieure du syndicalisme, qui n'est pas celle ni de la CFTC, ni de la CFDT. Donc, tout peut être un instrument de mesure, à condition de savoir ce que l'on mesure et de poser les bonnes questions.
Et alors, quelle serait la mesure que vous effectueriez, vous, pour ce 1er mai 2019, si on le compare aux autres, du point de vue par exemple, peut-être de la mobilisation ?
Du point de vue de la mobilisation, que l'on se fie aux chiffres du ministère de l'Intérieur, 18-19, ou aux chiffres des organisateurs, 18-19, faut comparer des chiffres comparables, ou convergence, 18-19, donc à source identique, ce 1er mai 2019, dans une conjoncture qui est extrêmement compliquée, dans une situation où les manifestations sont devenues quelque chose de relativement dangereux, il y avait quelques manifestants qui, comme à l'ordinaire, étaient là avec des poussettes, j'ose espérer qu'ils ont poussé assez vite les poussettes, parce que c'était justement pas comme à l'ordinaire, cette journée a rassemblé plus qu'à l'ordinaire, et pour la première fois, à Paris en tout cas, parce que là encore, Paris tente à occuper le devant de la scène, il y a eu beaucoup de très grandes manifestations en province, dans certaines villes de province, Marseille, c'était des manifestations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps du point de vue de l'importance. Il y a un phénomène, je dirais, j'aime pas le mot convergence, mais de rencontre dans un champ, porteur d'un certain nombre de valeurs et de revendications identiques, d'organisations, de mouvements, colère différente. Ça ne suffit pas à construire une stratégie, mais ça me paraît important à constater.
Le fait d'ailleurs que le 1er mai soit devenu aussi le point de rassemblement d'un certain nombre de revendications de groupes qui ne sont pas uniquement des organisations syndicales. Vous avez évoqué les Gilets jaunes, acteurs forcément inédits de ce 1er mai 2019. Ça n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Depuis quelques années, c'est ce que vous notez dans votre histoire du 1er mai en France, Daniel Tartakovsky, il y a des groupes, alors ça peut être les immigrés, ça peut être les homosexuels, qui se sont joints à cette journée-là. Pourquoi ? Pour gagner en visibilité, pour aussi essayer de faire avancer les droits. C'est aussi ça, le 1er mai, aujourd'hui, désormais ?
Ben, je crois que toute organisation qui choisit de se donner à voir dans l'espace public le 1er mai, d'une certaine manière, encore une fois, explicitement ou pas explicitement, s'inscrit dans une histoire. J'avais travaillé il y a quelques années sur les manifestations contemporaines dans l'espace parisien. C'était très frappant de voir comment certaines organisations d'immigrés, je pense au Boat People, à toutes les organisations qui en découlaient, ne manifestent jamais le 1er mai et jamais dans l'espace traditionnellement dévolu au 1er mai, en organisant leur première manifestation sur l'esplanade du Trocadéro, et comment d'autres organisations ne manifestent pas à l'esplanade du Trocadéro, mais choisissent ce jour et ce moment, certes, parce que ça donne de la visibilité, mais parce que c'est une certaine manière de s'inscrire dans une histoire, je le répète, qui est une histoire qui a commencé avant le syndicat. N'oublions pas que le premier 1er mai, c'est 1890, et que la CGT, elle naît en 1895, et ça autorise, je crois, des phénomènes. Et qui a des phénomènes d'appropriation, certes, quelquefois très éloignés de l'épicentre, mais que ça dit quelque chose sur l'inscription dans des valeurs et dans une histoire.
Est-ce que quand les Black Blocs, en 2018 et en 2019, choisissent notamment le 1er mai pour se faire voir, se faire entendre, avoir des actions qui sont des actions violentes, est-ce que ce mouvement-là s'inscrit lui aussi dans une histoire du 1er mai, non, qui est une histoire qui est née dans la violence?
Vous avez raison de me reprendre. Je ne sais pas si vous me reprenez.
Ah ben, je ne sais pas, en fait.
Ce que je dis vaut quasiment pour tous ceux qui sont là, sauf pour les Black Blocs, parce que là, on a le croisement entre des stratégies qui sont nées avec les mouvements intermondialistes, hein, Genève, etc., qui sont nées à l'étranger, à l'étranger en Europe, mais dans le cadre des mouvements intermondialistes, de certains mouvements intermondialistes, quand ils trouvent à s'infiltrer dans une manifestation qui est susceptible de leur permettre d'agir, parce qu'ils agissent à l'abri d'eux, hein, rappelons-nous les manifestations contre la loi El Khomri, sont présents. Donc mon raisonnement ne vaudrait pas, selon moi, pour les Black Blocs.
Les manifestants du 1er mai n'ont jamais été violents, en tout cas l'histoire du 1er mai, si on remonte à 1886, elle naît dans la violence.
Alors attention, il y a deux origines du 1er mai, alors, en fait le 1er mai, mais ça va nous entraîner loin, il y a deux origines qui ne sont pas contradictoires. La véritable origine de la journée internationale de lutte des travailleurs, c'est pas 1886 Chicago, c'est le Congrès de Paris 1890, et c'est des organisations émergentes, réémergentes syndicales. Socialiste.
Ça n'est pas pour commémorer ce qui s'est passé en 1886 à Chicago, avec la répression notamment d'un mouvement.
Combattons ensemble l'année prochaine, c'est en 89, à l'occasion du centenaire de la Révolution française. Combattons ensemble l'année prochaine pour les 8 heures. L'idée importante, c'est la simultanéité. Simultanéité ou une époque où il n'y a pas des réseaux sociaux et où il n'y a pas Internet. Et même le train n'est pas d'une simplicité absolue. Donc l'idée, c'est tous ensemble. Et c'est tous ensemble créer ce que la FARC appelle une mystique en 1890. Il faut trouver une date. Alors une fois qu'on a dit tous ensemble, c'est quand ? Il y a un long débat. 14 juillet, oui, c'est bien, mais c'est un peu français quand même. La commune, c'est pas mal, mais enfin, on n'est pas tous d'accord sur la commune. Et puis, c'est encore un peu français. Et comme les syndicats américains ont déjà prévu manifestent chaque 1er mai, parce que le 1er mai aux États-Unis, c'est la date de reconduction des contrats et des baux. Donc c'est un temps, je dirais, c'est un temps économique et social. Comme il y a une journée qui est prévue, comme déjà en 86, sur la question des 8 heures, ils décident de s'aligner sur cette journée. Et comme les syndicats américains qui veulent se démarquer des anarchistes, ne tiennent absolument pas à ce que ces journées prennent un caractère international, etc., ils se déportent sur le 4 septembre. Donc précisément, alors ensuite, dans les années qui viendront, les anarcho-syndicalistes qui tiennent pas à avoir une origine socialiste, récupéreront l'origine de 1886.
D'accord. S'agissant de la violence, et j'y reviens, je disais, bon alors c'est aussi une journée qui est née dans la violence.
Mais en France,
très vite,
fourmi.
Très vite, voilà. Fourmi. 1891, 1er mai 1891, on est dans le Nord. C'est d'ailleurs une date qui est encore commémorée. Hein. Mercredi dernier, il y a eu une commémoration de ce qui s'est passé à Fourmi en 1991.
Acte 4 des Gilets jaunes, à ma très grande surprise, sur les Champs-Élysées, j'ai vu un petit groupe de manifestants qui venaient vraisemblablement du Nord, qui brandissaient une pancarte sur laquelle il y avait marqué « Devoir de mémoire, 1er mai 1891, Fourmi ». Je pense qu'il y avait 9,5 personnes sur 10 autour d'eux qui ne savaient plus ce que c'était que Fourmi.
En quelques mots, qu'est-ce que c'était Fourmi, justement ?
Alors Fourmi, c'est sur une gamine que le Lebel fit son premier essai, manifestation grève. N'oublions pas que le 1er mai n'est pas une journée fériée jusqu'en 1947. C'est une journée, donc on chôme, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la grève. Et comme on chôme, ça dégage un espace pour combattre ou pour faire des fêtes, ou pour manifester. Enfin, quand je dis où, c'est plutôt « et », d'ailleurs. Et il y a une grève dans une petite ville textile de Fourmi. Ce sont des usines qui emploient essentiellement des femmes et des jeunes femmes. Les manifestants, dans lesquels il y a beaucoup de manifestantes, avancent dans la rue. Le patronat des usines du Nord, qui s'inquiète, a demandé à mobiliser la troupe, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de force de l'ordre spécialisée dans le maintien de l'ordre. Les manifestants, dont beaucoup de manifestantes avancent, les soldats prennent peur, ils viennent d'être armés avec un nouveau fusil qui est le fusil Lebel, et ils tirent, et en tête du cortège, il y avait une jeune femme, une toute jeune fille, qui portait le mai, c'est-à-dire la fleur d'églantine, selon les traditions du mai, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le 1er mai, et il y a 8 victimes qui sont jusqu'à ce jour effectivement commémorées.
Alors progressivement, le 1er mai va changer de forme, même s'il y aura d'autres épisodes violents, notamment par exemple le 1er mai 1919. C'est d'ailleurs cette année-là que, en France, la journée de 8 heures va être accordée. Journée de 8 heures qui est la revendication initiale de cette fête internationale des travailleurs. Écoutez ce que disait sur cette évolution prise par le 1er mai au fil des années. On est en 1951, le 1er mai 1951. Un certain Georges Fontenis, syndicaliste, il participait à l'émission La Tribune de Paris sur la radiodiffusion française.
Il est tout de même, je crois, une leçon à tirer de ces 1er mai du passé, c'est qu'à cette époque, la classe ouvrière avec 100 000 manifestants effrayait la bourgeoisie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec 1 million de suiveurs, n'est-ce pas, qui défilent comme en 46 derrière les chars pour magnifier la production, n'est-ce pas ? N'a plus aucune portée. Pourquoi ? Parce que, vraiment, la classe ouvrière a été dévoyée. Il serait donc bon que, on tente à y revenir cette année, la CGT a fait un virage à gauche et c'est heureux, on tente à revenir à un 1er mai de revendications. Mais il faudra des revendications qui soient largement au-dessus de celles de 1890. On n'en est plus à la journée de 8 heures, n'est-ce pas ? Mais on demande seulement le retour à la semaine de 40 heures qui, sauf erreur, avait bien été accordée en 1936. Il me semble que la classe ouvrière, et j'entends pas par la classe ouvrière uniquement les manœuvres, bien entendu, j'y inclus aussi les techniciens qui ne sont que des salariés, la classe ouvrière peut valablement aujourd'hui revendiquer non pas seulement une journée réduite, mais la gestion de l'économie de notre société. Et alors à ce moment-là, peut-être, verrions-nous des 1er mai vibrants et généreux.
Voilà le syndicaliste Georges Fontenis en 1951, le 1er mai 1951. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, Daniel Tartakovsky ?
C'est très intéressant. Je rappelais il y a un instant que c'est en 1947 qu'une loi transforme le 1er mai de journée chômée et payée. C'est-à-dire que pour la première fois, un temps qui a été conquis par les travailleurs de leur plein droit, comme disait George Hobsbawm, est devenu quasiment dans le monde entier une journée fériée. Et c'est très intéressant de voir que quand on lit les histoires du 1er mai qui sont écrites dans les années 50 et par la CGT et par Force ouvrière après 47, pas trop comment le prendre. Enfin, dans les historiques qu'on trouve dans la presse de Force ouvrière, il y a carrément, on nous a volé notre 1er mai. Tant qu'il y avait la grève, ça disait quelque chose, mais c'est ce que dit peu ou prou ce militant syndicaliste. La CGT le faisait de façon plus discrète, mais néanmoins, quand on a les acquis historiques du 1er mai, on ne voit jamais apparaître le fait que cette journée se soit transformée en jour férié, d'une certaine manière. Et il y a effectivement l'idée que l'essence du 1er mai s'est trouvée quelque peu pervertie par cette mutation.
Oui, est-ce qu'on peut faire justement le constat, c'est là que aussi je voulais en venir avec vous, Daniel Tartakovsky, d'une perte peut-être de la dimension de revendication social au profit d'un rendez-vous un peu plus festif, un peu plus familial. C'est ce que dit ce militant. Finalement, on était moins nombreux, mais on était beaucoup plus actifs, beaucoup plus revendicatifs. On marchait pas au pas, quoi. C'est un petit peu ce qu'il raconte.
Festif et familial, je sais pas. Il y a eu débat sur le terme de fête dès 1891. Les anarchistes disaient, la fête, c'est bien gentil, mais enfin, ça sera la fête quand on aura gagné, hein. Donc, le terme de fête est un terme qui a été très vite débattu. Ça va de pair avec ce que je disais il y a un instant. Bon, c'est bien clair qu'à partir du moment où la journée est fériée, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite plus la grève, c'est plus le même répertoire d'action, pour reprendre le vocabulaire de Charles Stilly. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne se passe rien? Je dirais pas du tout. D'abord parce que rappelons-nous que le 1er mai s'est précisément constitué par sa dimension internationale et que dans des conjonctures qui le requéraient plus que d'autres, cette dimension de lutte internationale, de solidarité internationale, de lutte pour la paix est extrêmement forte. Je pense au 1er mai dans la période de la guerre d'Algérie ou de la guerre au Vietnam, où les manifestations étaient interdites, je parle de la guerre d'Algérie, et où dans plusieurs villes de province, il y a des militants algériens qui sont tués pour leur participation à des manifs de 1er mai en 52 et en 53. Donc la violence, elle a pu advenir dans des circonstances certes plus particulières et être plus localisée, mais c'est pas tout à fait un retour en force sans précédent. Bon, qu'on pense au 1er mai 68, qui bien sûr ne porte pas en lui la suite de l'histoire, nous ne la connaît pas, même le 1er mai 68, mais qui est un 1er mai, c'est une reconquête de la rue par la CGT, puisqu'on n'avait plus le droit de manifester dans Paris le 14 juillet et le 1er mai depuis 54, et que vous parliez de température, il me semble que le 1er mai 68, sans porter en lui la suite de l'histoire, permet de prendre une température qui est inédite.
Le 1er mai, moment de revendication ou moment de fête, écoutons ce qu'en dit Emmanuel Macron. Enfin, écoutons, je vais vous le lire, puisque c'est ce qui a été publié sur son compte Twitter. Le président de la République écrit ceci. Le 1er mai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu'ils produisent, parce qu'ils forment, parce qu'ils savent que par le travail, nous construisons l'avenir. Est-ce que c'est une erreur totale de lecture, Daniel Tartakovsky, de ce qu'est le 1er mai, ou est-ce que ça n'est qu'une lecture partielle, disons?
Écoutez, comme je n'ose pas imaginer que le président de la République ignore toute l'histoire du 1er mai, j'aurais tendance à dire que c'est une provocation.
Une provocation, peut-être aussi une récupération, une
instrumentalisation. Les deux termes sont faux. Bon, la notion de fête est à expliquer. Fête, mais comme disait Georges Osbaum, au sens religieux de férié, et non pas au sens de youpi, c'est la fête, et non pas du travail, mais des travailleurs, comme vous le disiez, avec cette dimension internationale, donc pour moi une provocation.
Alors, le 1er mai, Daniel Tartakovsky, il est assez souvent rattrapé par les politiques et aussi par l'actualité politique, ne serait-ce parce que tous les 7 ans à une époque et tous les 5 ans désormais, ce 1er mai, il intervient en pleine période de la campagne présidentielle. Est-ce que ça a pu changer quelque chose, le fait que ce moment-là coïncide justement avec le grand rendez-vous électoral en France?
Alors, c'est quasiment constitutif du 1er mai, hein, ça tient au calendrier électoral. C'est dès les années 1892-93, il y a un débat, est-ce qu'il faut changer la date des élections ou est-ce qu'il faut changer la date du 1er mai? Bon, alors évidemment, on change ni l'un ni l'autre, mais ça fait débat dès les années 90. Moi, je retiendrais évidemment un 1er mai qui était hors du commun, qui était le 1er mai 2002, dans l'entre-deux-tours, avec la situation que l'on connaît, c'est-à-dire la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, et où la manifestation, dont il est important de constater qu'elle est restée sous l'égide des syndicats unis, mais soutenue par toutes les organisations politiques, y compris qui combattaient qui dénonçaient la présence de Le Pen au deuxième tour, a évidemment été une manifestation éminemment politique. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tendance à dire, je l'ai dit jusqu'à encore pas très longtemps, mais je le dis plus depuis le 17 novembre, que en France, pour qu'il y ait un mouvement d'importance, y compris sur des raisons politiques, 12 février 34 ou 1er mai 2002, il faut que la logistique syndicale entre en jeu. C'était vrai jusqu'au 17 novembre. À ce titre-là, les Gilets jaunes constituent une rupture majeure.
Alors, ce 1er mai 2002, il rassemble plus d'un million de personnes donc, contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Il faut dire que le 1er mai est devenu, depuis quelques années, pour le Front National, son grand rendez-vous annuel. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et pour savoir pourquoi cette date a été choisie par le FN, ce 1er mai, bien vous avez interrogé une autre historienne.
Une spécialiste du mouvement fondé par Jean-Marie Le Pen, l'historienne Valérie Higonnet. Donc, pour essayer de mieux comprendre avec elle l'importance de cette date dans l'histoire du Front National, car au début du FN, les militants du parti défilaient avec les autres mouvements de l'extrême l'extrême droite française, le 8 mai et non le 1er, pour honorer Jeanne d'Arc. Et cela donc jusqu'à la présidentielle de 1988.
À partir du 1er mai 1988, le Front National a décidé, on va dire, de s'accaparer cette date et de défiler seul. C'est-à-dire qu'auparavant, à partir de 79, il défilait le 8 mai avec les mouvements d'extrême droite français. On est donc au lendemain de la présidentielle et là, le Front National a un score inédit, c'est-à-dire plus 14% des voix. Et ce défilé, ce 1er mai, est pour lui aussi une confirmation, entre guillemets, de sa place politique dans le paysage politique français.
Et il se trouve que cette date du 1er mai était à l'époque déjà connotée, chargée d'histoire pour l'extrême droite française, puisque le maréchal Pétain en avait fait la fête du travail en 1941. Est-ce que cet héritage a été revendiqué par les militants du Front National de 1988 à aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Aujourd'hui, évidemment, le Rassemblement National ne se revendique plus de ce que vous venez de citer. Mais c'est vrai que, par exemple, pour ce 1er mai fondateur, là, qu'on revient en 88, on va dire le communiqué du Front National, celui qu'il mettait en avant, il a parlé de cette date de 41, quand le maréchal Pétain, je le cite, a décidé de transformer cette journée d'affrontements sociaux en une fête du travail, etc., etc. Et cette revendication perdurait. Aujourd'hui, évidemment, au sein du Rassemblement National, on n'en est plus là. Et même le Front National a brisé, on va dire, a voulu briser en tout cas cet héritage et a voulu être le représentant de ce peuple de gauche qu'il prétend incarner.
C'est donc bien la figure de Jeanne d'Arc que les militants du FN célèbrent le 1er mai. Et comment cette fête s'est-elle teintée d'une coloration sociale au fil des années ?
À partir de cette année 88 et encore aujourd'hui, on célèbre cette femme, et on l'a encore célébrée il y a quelques jours, mais aussi, on va dire, ce côté social, cette fête du travail que prétend incarner le Front National. Il y a toujours cette vision, vous savez, dans les années 80 et 90, le Front National devient, soi-disant, veut devenir, en tout cas, le représentant des ouvriers français. Et il dit bien, et encore aujourd'hui, avec le Rassemblement National, que personne ne voit sauf lui le peuple de gauche, en l'occurrence aujourd'hui pourquoi pas les gilets jaunes, personne ne les entend, ils sont abandonnés et c'est eux qui défendraient les classes populaires.
Voilà, c'était l'historienne Valérie Higounet à qui on doit notamment L'illusion nationale, un ouvrage publié en 2017 aux éditions Les Arènes.
Daniel Tartakovsky, pour conclure, on voit qu'il peut y avoir plusieurs lectures, plusieurs appropriations du 1er mai. Finalement, le 1er mai appartient à tout le monde, on peut en faire ce qu'on veut.
Mais une des raisons de la puissance du 1er mai, c'est qu'il s'est inscrit dans un temps préexistant qui était le temps de toute une série de coutumes, de toute une série de fêtes, et que effectivement c'est le temps du renouveau. C'est le temps du renouveau avant que d'être construit comme une journée de lutte par les mondes du travail, qui est certes hégémonique, mais oui, il appartient à... ses origines sont plus larges et permettent toutes sortes de, je ne dirais pas de réappropriation, d'appropriation.
C'est ce qui en fait que cette journée ne ressemble à aucune autre dans toutes les journées et tous les jours fériés que l'on peut connaître, par exemple en France.
Oui, la preuve en est, il y a une très grande plasticité de la journée, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel Tartakovsky, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Pour tout savoir sur l'histoire du 1er mai en France, je renvoie donc à l'ouvrage que vous avez publié il y a quelques années de cela chez Hachette Littérature, La part du rêve. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Le Gras, avec à la prise de son aujourd'hui Louis Bardinet. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous pour ma part lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre. On s'intéressera à la question de la réforme des retraites. Et dans un instant, sur France Culture, le journal de 12h30.